Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Vous avez la parole aujourd'hui dans Priorité Santé, la parole à celles qui, précisément, dans leur quotidien, ressentent des difficultés pour s'exprimer, faire part de leur opinion ou sentiment en public ou même dans un cercle plus restreint, en petit comité, même en famille. Au travers de vos témoignages, nous allons essayer de comprendre ce qui peut freiner, ce qui peut expliquer pourquoi il est parfois si compliqué de s'affirmer. S'agit-il de la peur des réactions des autres, de la crainte d'être jugé? Est-ce que dans notre passé, notre enfance par exemple, des vexations ou des critiques ont créé des formes de blocage, modestie ou timidité, une éducation qui n'a pas permis à la parole d'exister? Les auditrices de Priorité Santé témoignent aujourd'hui et un spécialiste est à leur écoute pour échanger avec elles, comprendre ce qui leur pose problème, mais aussi ce qu'elles aimeraient voir changer, avec bien sûr des conseils pour réussir à exprimer ses sentiments et ses envies, oser dire non, mais aussi oui, pour ne pas passer à côté d'une opportunité et de le regretter ensuite, faire des projets et d'une certaine manière, retrouver sa juste place. Et aujourd'hui, pour nous accompagner au cours de cette émission, on retrouve au Sénégal le professeur Pape Lamine Faye. Bonjour professeur.
Oui, bonjour Caroline.
Vous êtes psychiatre au CHU de Fana Dakar, également maître de conférence agrégé de psychiatrie, professeur Faye, dans les studios en Mandincan et Full Full Day de RFI, dont on remercie d'ores et déjà toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
La politesse, la retenue, la timidité, hein, beaucoup de mots pour décrire cette difficulté, parfois ce manque d'estime de soi, voire carrément se retrouver complètement bloqué au moment de parler. Professeur Pape Lamine Faye, quand on dit avoir des difficultés pour s'affirmer, ça peut prendre des formes différentes en fonction, par exemple, des moments, en fonction des contextes.
Oui, absolument. Les contextes sont extrêmement déterminants dans la façon dont on va s'exprimer. Il peut arriver par moments qu'on ose le faire. Il peut arriver à d'autres moments qu'on mette la tête sous le sable, qu'on laisse passer des choses. Et il peut arriver par moments qu'on veuille le faire, mais avec beaucoup d'agressivité. Et tout ça, effectivement, peut impacter la qualité de la relation, qui peut aller vers la détérioration ou bien vers la stabilisation.
Qu'est-ce qui peut expliquer que, par exemple, en famille, on réussit à parler? Par contre, quand on arrive au travail, à l'université, à l'école, c'est le blocage complet.
Alors, quand on est avec des personnes qui nous sont familières, on n'a pas de crainte habituellement par rapport à la relation. On peut se lâcher, on peut dire des choses parce qu'on est sûr que la relation, elle est là. Par contre, face à des étrangers, face à des personnes que nous rencontrons les premières fois, ou en tout cas qui ne nous sont pas du tout familiers, c'est un peu plus difficile parce qu'on se dit que l'autre soit est dans le rejet ou bien dans l'acceptation. Et que d'une certaine façon, on est soumis à son évaluation et à son regard. Ce qui fait qu'on a un peu de crainte, effectivement, à parler devant cette personne qui nous est étrangère.
Professeur Pape Lamine Faye, certaines personnes sont presque mutiques, ne parlent pas, restent dans le silence, et pourtant n'en souffrent pas. Et puis, pour d'autres, c'est une véritable douleur. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence?
Maintenant, on a plusieurs alternatives. Des fois, on peut se dire qu'effectivement, rester dans sa zone de confort, c'est ne pas se prêter à cet exercice d'être soumis à l'évaluation de l'autre, à son jugement. Et pour d'autres personnes, il y a des impératifs et des contraintes qui font qu'on doit prendre la parole. Et c'est très, très, très compliqué. Tout dépend de la manière dont on a été accueilli, la façon dont on a été éduqué, l'environnement dans lequel on a été grandi. Est-ce que la parole a été acceptée? Est-ce que la parole a été accueillie? Par moments, c'est par peur d'être effectivement jugé. À d'autres moments, c'est la peur justement de passer, de craindre que la relation ne se détériore ou que l'autre soit dans le rejet ou qu'il n'accepte pas justement nos positions.
Est-ce qu'il est essentiel de comprendre l'origine de l'embarras pour s'en débarrasser?
Pas forcément, mais ça peut toujours aider. De comprendre que ce n'est pas à nous de nous remettre en question, c'est lié juste à une situation inadéquate. Malheureusement, à cause de cette situation, on a tendance à penser que c'est nous qui ne sommes pas adéquats. Et par conséquent, tout ce qui vient de nous, que ce soit notre parole, notre discours, peut être vécu par les autres comme quelque chose d'inadéquat. Alors qu'en comprenant d'où est-ce que ça vient, on se comprend juste qu'on est, on a été victime d'une situation et qu'on peut effectivement donner de la valeur ajoutée à sa personne en essayant de faire ce que les gens nous ont toujours renvoyé par rapport à leur regard et par rapport à leur jugement.
Alors justement, professeur, qui est cette ressource, qui est cet interlocuteur qui va nous permettre à comprendre, à identifier l'origine de ces problèmes de communication ?
En général, on le sent par soi-même, hein. On comprend qu'on a des difficultés à communiquer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certaines personnes vont aller vers une démarche d'aide et d'accompagnement pour débloquer certaines choses qui sont là enfouies et qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent intuitivement que ça vient de quelque part, en général du milieu familial, mais que c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Pour d'autres, par contre, ils préfèrent justement rester dans cette zone de confort et après avec tout le lot de malaise, d'inconfort psychologique que ça crée.
Alors évidemment, le contexte familial, hein, l'éducation, il y a des règles qui impliquent de rester à sa place, quitte, professeur, à avoir le sentiment d'être coincé, d'être muselé. Est-ce qu'on peut dire que c'est particulièrement vrai pour les filles ?
Particulièrement vrai, oui, pour les filles, parce que habituellement, dans le modèle éducatif, généralement, on demande, en tout cas, si je prends le contexte africain, le Sénégal en particulier, par rapport à certaines familles, il y a un rôle, une place qui est assignée à la fille, à la femme de façon générale. Et c'est un rôle qu'elle doit incarner justement quand elle se marie, apprendre à ne pas trop parler, à ne pas trop répondre, à avoir une certaine posture où on est un peu dans une certaine passivité. Et ça, c'est un peu associé à la valeur qu'une femme dégage. Généralement, quand une femme se défend beaucoup, qu'elle parle beaucoup, souvent elle peut donner une mauvaise image d'elle-même.
Dans la société, dans certaines sociétés, on va le dire en tout cas, et... Pourtant, la critique, les remarques dévalorisantes, c'est quelque chose aussi d'effectivement très difficile à surmonter.
Absolument, très difficile à surmonter. Parce que justement, quand on est dans le milieu familial et qu'on est un enfant et que très souvent on est sujet à certaines critiques, à beaucoup de reproches, on finit par se construire avec justement ces messages. Et on finit par croire qu'on est effectivement quelqu'un d'inadéquat, quelqu'un qui n'est pas parfait, quelqu'un qui n'est pas forcément valable. Et du coup, quand on est face à certaines personnes, on a peur de laisser paraître quelque chose si jamais on énonce quelque chose dans le discours. Et du coup, on préfère parfois rester à sa place et ne pas trop se prononcer pour éviter le jugement des autres.
Alors tout de suite, en priorité santé, de premier témoignage, c'est le moment de retrouver notre palabre au féminin. Et cette semaine, Charlie Dupiot a ouvert son micro à quatre femmes réunies à Brétigny en région parisienne. Aminata, 35 ans, Kenny, 33 ans, Mariam, 33 ans et une seconde Aminata, elle a 32 ans et c'est elle qui entame cette discussion.
Ça sera plutôt niveau travail parce que j'ai commencé dans l'hôtellerie, j'avais 25-26 ans. Donc il n'y avait que des anciens dans mon service, c'était le service housekeeping, et j'étais la plus jeune. Donc il a fallu que je m'affirme, parce qu'il va falloir que je donne des ordres aux valets, aux femmes de chambre et à l'équipe sous-traitante. Et ce n'était pas facile au début.
Comme vous n'avez pas le même âge, comment t'as fait pour gérer ça ?
Elles avaient quoi ? Peut-être une trentaine d'années d'ancienneté. Et moi je venais d'arriver, j'avais même pas encore 6 mois. Donc du coup il a fallu m'affirmer. Mais au fil des mois... Ils ont vu que j'avais un certain respect pour eux parce qu'ils étaient des personnes d'un certain âge. Donc, avec ce côté-là, ça m'a facilité de pouvoir me positionner en tant que, entre guillemets, chef pour eux. Et ça a été une formation pour moi.
Ouais, moi, c'est plutôt ma jeunesse. Hein, parce que les étapes, des fois, t'arrives un matin, personne te parle. Tu vois personne, personne te calcule. Ça peut durer pendant... 2-3 semaines.
Où ça?
Au collège. Au collège, dès la 6e jusqu'à la 4e, je me suis rebellée. Je me suis dit, ça suffit, je traîne plus avec eux. Je marche plus avec vous, c'est fini, je reste dans mon coin.
De la 6e à la 4e, c'est beaucoup quand même, hein, presque 3 ans et tout. T'es là, tu te.
Voilà. Enfin, c'est pas vraiment de l'harcèlement, mais c'est un peu ce système-là, quoi.
Donc, t'as appris à t'affirmer. C'est ça.
De toute façon, t'as pas le choix. On te met des histoires où on te dit que toi, t'as dit ça alors que t'es pas au courant de cette histoire.
Et maintenant que tu es devenue adulte maintenant, est-ce que tu te laisses faire en fait au niveau du travail ou de ta vie maintenant ?
Ça m'a appris à plus me laisser faire, surtout ni au travail, ni avec la belle famille, voilà.
En fait, il faut vraiment faire attention. Surtout quand il y en a qui vivent chez toi.
L'affirmation.
Waouh ! Parce que moi j'avais ma belle-sœur qui vivait chez moi, tout se passait bien. Des petites réflexions par-ci par-là.
Moi, j'ai dit, bon, ok, je dis rien, je laisse.
Ça peut être tout, la nourriture,
ça peut être tout. Par exemple, tu vis chez moi, tu dis, oui, ouais, faut pas laisser son mari faire le ménage, ok. Alors qu'il a l'habitude de m'aider. Faut que c'est toi qui le fasses. Donc, à cause d'elle, tout ça, d'une petite à petit, Julien a tout arrêté. Hein. Il a tout arrêté. Hein. J'ai supporté tout ça. Hein. Il a arrêté de faire. Il a arrêté de m'aider à faire le ménage. Il a arrêté de faire à manger. Il a arrêté de faire tout. Même pour laver les enfants, il ne le faisait plus rien. Une petite remarque seulement, il arrête. Bah, en fait, je pense qu'il se disait que peut-être que si sa sœur a dit ça, ça va le dévaloriser. Parce qu'il.
Ah, c'est la meilleure.
Non, mais je pense que c'est ça. Il pense que le fait de le faire, ça va le dévaloriser. Sauf que non, il aide sa femme. C'est pas méchant, c'est rien. Je sais pas. Certaines personnes, quand tu leur donnes ton hospitalité, ils en abusent. Jusqu'à même maîtriser ta maison comme si c'était eux qui commandaient tout. Si dès le départ, tu commences pas à te défendre.
À mettre les barrières.
T'es dans la merde.
Parce qu'elle est restée combien de temps chez vous ?
Elle est restée à peu près un an. J'ai dit, bon, il y a un problème. Elle a quoi avec moi ? Un jour comme ça, elle vient à la maison. J'ai dit, bon, bah, aujourd'hui, on va parler. Elle me dit, non, tout. Je dis, si, on va parler. On va discuter. On va remettre des choses sur carte sur table. Moi, je te dis, voilà, il y a ça qui ne m'a pas plu. Je vois que tu te comportes comme ça. Voilà pourquoi je me suis éloignée de toi. Voilà pourquoi, voilà, tu rentres chez moi, tu as des sous d'humeur, tu ne veux pas boire mon café, tu ne veux pas manger ma nourriture. Jusqu'à ce qu'elle se justifie, elle m'a demandé pardon. Elle a mis ses mains comme ça, pardon, pardon. J'ai dit pardon, avec tout ce qui s'est passé dans ma jeunesse, au collège, etc., et tout ce que les gens se sont fait, les gens qui se sont moqués de moi toute ma vie, vous croyez que c'est quelqu'un qui va venir enlever ce que j'ai bâti dans ma vie, chez moi? Non, hors de question. Mais au jour d'aujourd'hui, franchement, s'affirmer, c'est beaucoup au regard des autres. On regarde les autres et des fois on a peur de s'affirmer. On a peur de dire ce qu'on pense. Mais aujourd'hui, avec le temps, je me dis, mais il n'y a rien. Même si tu me coupes la gorge, je vais te dire ce que je pense.
Pas envie de se laisser faire. Un reportage de Charlie Dupiot. J'imagine que vous l'avez suivi attentivement. Professeur Paplamine Faye, toujours avec nous. Elle a vu le regard du psychiatre sur ces paroles de femme et on a entendu, ne plus se laisser faire, ça s'apprend.
Absolument, ça s'apprend. Et on voit que finalement, ça fait beaucoup de bien. Quand on est dans le milieu professionnel, si je prends le premier témoignage, on est avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que nous, qui ont beaucoup plus d'expérience professionnelle, plus de 30 ans. Nous, on est nouveaux. Quand on est aussi jeunes, ceux qui sont avec nous nous renvoient une figure maternelle ou paternelle et on se dit qu'on prend peut-être pas le droit de le dire. Mais à un moment donné, quand on ne le fait pas, on ne peut pas travailler dans de très bonnes conditions. Et c'est oser s'affirmer, le faire tout simplement dans le respect, la bienveillance et que l'autre comprenne que c'est pas pour être méchant, mais c'est juste pour poser des limites. Et quand on pose des limites, on arrête un comportement récurrent qui nous porte préjudice, qui fait qu'à un moment, on n'en peut plus, on ressasse des frustrations. Et pour se faire du bien, il va falloir en parler à un moment donné.
Et justement, cette bonne association que vous avez aussi soulevée dans ce que disait en début d'entretien Aminata, au début de cette palabre au féminin, s'affirmer dans le respect.
S'affirmer dans le respect, s'affirmer dans la bienveillance. Parce que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'exprimer vos idées, mais ce que vous devez à l'autre, c'est justement le respect, justement la bienveillance, une parole qui est honnête, qui est sincère, qui est appropriée, où l'autre entend bien ce qu'on lui dit et il n'a pas le sentiment d'avoir été agressé, il n'a pas le sentiment d'avoir été pris à partie. Vous lui avez juste dit une vérité simple et ça permet de poser des limites et d'envoyer de bonnes informations auxquelles l'autre réagit souvent de façon favorable.
Professeur Paplamine Faye, on va prendre tout de suite une première auditrice en ligne.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Et c'est donc au Burkina Faso que l'on retrouve maintenant Virginie. Virginie, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre problème,
bonjour
Virginie.
À toute l'équipe de Priorité Santé.
C'est très gentil. Votre problème, Virginie, c'est donc de parler en public et pourtant vous en avez besoin pour vos activités.
Beaucoup, beaucoup besoin. Quand je prends la parole en public, la voix tremble, le micro tremble dans mes mains. Donc, je n'arrive pas à m'exprimer correctement en public.
Virginie, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de nous appeler, de parler à la radio, de participer à notre émission?
Aujourd'hui, je peux dire que j'ai pris l'audace et mon courage à deux mains pour affronter cette peur que j'appelle une peur. Ça me fait aussi plaisir aussi. De parler, peut-être que ça va m'aider.
Parce que vous avez l'impression de dépasser ce blocage?
Oui, j'ai cette impression.
Tout à l'heure, vous disiez « quand je prends la parole avec un micro dans la main ». Ça veut dire que vous assistez à des réunions qui rassemblent beaucoup de monde. Comment est-ce que vous vous sentez pendant ces événements publics? Votre peur, elle se manifeste comment?
La peur, quand je suis en public, j'ai bien envie de prendre la parole. Quand je prends la parole maintenant, c'est là que le problème se pose. Voilà.
C'est-à-dire le malaise, il est physique? Votre voix tremble? Vous transpirez? Comment ça se passe?
Bon, je ne transpire pas, c'est la voix qui tremble. Et souvent même, la phrase n'est pas bien coordonnée. Les bras tremblent, voilà, et je perds les mots.
Vous perdez vos mots, on n'arrive plus à vous comprendre. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est votre impression à vous?
C'est mon impression.
Et qu'est-ce que vous dit l'auditoire? Qu'est-ce que vous dit le public?
Mais après, ils répondent correctement à ma question et je me dis, ah, j'ai dit tant mieux, donc ils ont compris ce que je voulais dire.
Vous êtes bloqué ou vous vous dévalorisez?
Bon, pas dire dévalorisé jusqu'à ce point, mais je me dis que je suis bloqué à quelque part.
Et autour de vous, les gens qui sont avec vous dans la vie de tous les jours, ils sont plutôt doux avec vous, bienveillants, ils vous font des compliments ou sans arrêt on vous critique?
Non, pas des critiques. Par contre, même, c'est les gens qui viennent vers moi et qui demandent des conseils. Et quand je les conseille, quand ils partent, ils appliquent, après, ils viennent, ils me remercient gentiment que vraiment, tu as bien fait de me conseiller, de faire ceci, cela. Et ça marche.
Et quand vous étiez petite, Virginie, est-ce que vous avez rencontré un instituteur ou à la maison des gens qui vous ont fait des reproches, des remarques, qui vous ont critiqué et cela vous a mis mal à l'aise?
Oui. Et même étant adulte, même j'ai un de mes frères même qui souvent me taquine, qui me dit non, que moi je parle au hasard. Je suis quelqu'un de très direct. Et avec mon époux aussi, mon époux me fait souvent des remarques que je suis très direct.
Et ces remarques qu'on vous fait, ça vous blesse?
Ça me blesse, mais je me retiens maintenant de ne plus parler.
Vous vous retenez, ça veut dire que vous allez au-delà du blocage et que vous réussissez à dire ce que vous pensez?
Oui.
Votre frère, quand il vous fait des critiques, qu'est-ce que vous lui dites?
Non, je ne dis rien. Je dis ce que j'ai à dire et je continue mon chemin.
Vous continuez. Pas comme si de rien n'était, parce que ça vous fait quand même un petit peu de peine, mais vous continuez quand même. En tout cas, vous faites beaucoup d'efforts, Virginie. La question que vous vouliez poser à notre invité, au professeur Fay, c'est quoi précisément?
C'est qu'est-ce qui justifie cette peur de prendre en public et la mettre tremble? Je ne sais pas c'est quoi ou juste. Et puis, comment soigner ça?
Alors, deux choses. Comprendre d'où ça vient, puis bien sûr, on comprend. Essayer de trouver des solutions. Professeur Pape-Lamine Faye, j'ai posé beaucoup de questions à Virginie, notamment sur son entourage, et elle nous a déjà donné plusieurs pistes.
Oui, plusieurs pistes. Des critiques du frère, parfois des remarques du mari. Ça a l'inconvénient un peu de la bloquer, parce que peut-être c'est des jugements qui sont défavorables, qui font qu'après elle se retient comme elle dit. Donc c'est à partir justement de ces genres de contextes que vient la peur parfois de parler devant les autres, de parler devant le public, par peur justement d'attirer des jugements qui sont défavorables. Et c'est ce qui fait que quand on prend la parole, on a une certaine peur en soi qui va justement se manifester au niveau corporel par la main qui tremble, la voix qui tremble. Parfois, il y a des personnes qui transpirent, les mains sont moites, ils sont en sueur ou bien les jambes sont flageolantes. Des fois, ce qui est intéressant avec Virginie, c'est que malgré ça, elle dit qu'elle a envie de prendre la parole. Et quand elle prend la parole, en fin de compte, elle a des feedbacks positifs. Puisque ce qu'elle dit est clair, les gens lui répondent et les gens viennent auprès d'elle pour recueillir des conseils parce que justement, on trouve peut-être qu'elle a très bien parlé. Et donc, moi, je l'encourage à continuer sur cette voie. C'est juste qu'au début, quand vous prenez la parole, pour éviter que la voix ne tremble trop, il faut vraiment bien respirer un bon coup, ensuite démarrer. Parce qu'une voix qui tremble, ça veut dire qu'à un moment donné, on a manqué de souffle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la voix tremble, les mains tremblent, parce qu'on a tellement envie de bien faire qu'on est dans ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Parce qu'on a envie de montrer le meilleur côté de soi-même, de donner le meilleur de soi. Mais il faut respirer un bon coup. Il faut juste essayer de rester calme. Il faut surtout accepter au début qu'il y ait ce malaise, ces petits tremblements. Mais après, plus on le fait, plus on se rend compte qu'on parvient à le surmonter.
Virginie, avoir le trac, c'est normal, hein, quand on parle en public. Moi, quand le rouge s'allume au micro, des fois, je prends un grand coup de respiration. Ça aide à traverser un petit peu l'océan avec les auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez de ces conseils, Virginie?
Oui, je pense que ces conseils vont beaucoup, beaucoup m'aider.
Parce que quand on vous a entendu, on a bien entendu vos qualités. Hein. On les a entendues, ces qualités. Et cette première qualité que vous avez exprimée, c'est le courage.
Ça, en tout cas, j'ai le courage, j'ai la volonté de prendre la parole.
Eh bien, merci d'en avoir fait profiter toutes les auditrices et tous les auditeurs de notre émission. Merci pour ce témoignage. Vous êtes la première programmatrice de l'émission aujourd'hui. Votre choix musical, c'est du zouk avec l'artiste guadeloupéen Eric Bruta et la Nous Tropicale.
Oh, ou ka navigue, mwen menm ka pase. Pa la peine di mwen toute la journée, ou aime mwen. Ménage à casser, moun ja séparé, mais qui mwen? Qui vous, ka fè la tout à tché en nou? Qui vivait, qui moi, qui vous, nous qu'a fait la toile en nous.
Priorité santé sur RFI, émission Question de femme, apprendre à s'affirmer, retrouver confiance en soi pour faire entendre sa voix. On est toujours en compagnie du professeur Pape Lamine Faye, psychiatre au CHU de Fan à Dakar, dans les studios en Mandinkan et Foulfoul des deux RFI. Et on part pour le Burkina, on retourne au Burkina, à Ouagadougou, on retrouve Djamila, jeune diplômée en recherche d'emploi, qui a souhaité partager avec nous son témoignage, son expérience. Question enregistrée sur le répondeur de Priorité Santé.
Bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé. Je suis Djamila, j'habite Ouagadougou, j'ai 26 ans. Je suis au chômage depuis pratiquement 3 ans maintenant. Et cette situation me fait perdre confiance en mes compétences. Lors de mes stages, tout se passe bien. Mais quand le moment vient de décrocher un emploi, c'est tout un problème pour moi. Souvent, je pense à une réorientation, mais j'ai tellement perdu confiance en moi que je ne sais même plus vers quel côté me tourner. Et je suis de nature joviale, accueillante, souriante. Mais de jour en jour, je deviens de plus en plus triste, renfermée. Et je sens que je suis plus loin de la dépression. Alors, quels conseils pouvez-vous me donner pour bien vivre ce temps de chômage qui n'est pas du tout facile pour moi parce que je me sens inutile. Souvent, je me demande même si ma vie a un sens parce que s'il faut passer tout son temps à l'école, avoir des diplômes et devenir chômer et t'amener même à perdre totalement confiance, je trouve que c'est pas la peine. Donc, tout me dégoûte, j'ai perdu goût à la vie. Alors, quel conseil pouvez-vous me donner, docteur? Merci bien.
Alors, on entend cette auditrice, hein, Djamila, vraiment fragilisée, qui a du mal à trouver sa place. Il faut dire que les difficultés socio-économiques, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Professeur Pape Laminfay, beaucoup de désillusions, de déceptions. On entend un véritable abattement chez Djamila.
Oui, un véritable abattement, beaucoup de sentiments de dévalorisation, et un dégoût de la vie, comme on le dit. Comme elle le dit, vraiment, on est presque dans de la dépression. Alors, ce qu'on entend chez Djamila aussi, c'est que c'est une personne qui est capable de se remobiliser une fois qu'il y aura du travail. Parce que habituellement les stages se passent bien, mais quand elle est dans des périodes d'inactivité, c'est là où justement il y a l'abattement, il y a presque cette dépression, alors que c'est une personne qui est joviale, qui est accueillante, qui est souriante. Alors le conseil que je lui donne, c'est Djamila, plus tu vas rester triste et renfermée, plus tu vas rentrer dans quelque chose de beaucoup plus difficile. Il faut que tu essaies d'aller à l'encontre de ce que te dictent tes sentiments du moment. C'est-à-dire, pose toujours des comportements. C'est vrai que tu ressens de la tristesse, tu n'as aucune envie, mais essaie d'avoir des comportements et des attitudes contraires à ce que te dicte la tristesse, ce dégoût de la vie. Aujourd'hui, on voit que tu n'as pas d'emploi, en tout cas, tu ne parviens pas à te faire recruter, et ça mine véritablement ta confiance en soi. Garde une chose à l'esprit, Djamila, c'est essayer toujours de faire la différence entre toi, ta personne et le travail. Ta valeur personnelle n'est pas assujettie à ton statut professionnel. Je veux dire qu'on peut avoir un emploi et se sentir bien, tant mieux. Quand on n'a pas d'emploi, on se sent moins bien, mais essaie de te relever, sois bien, parce qu'à tout moment, une opportunité de travail peut se présenter. Et en ce moment, si tu n'as pas la force et l'énergie nécessaire, tu risques aussi de passer à côté d'une opportunité. Il est vrai que depuis 2 ans maintenant, le monde du travail est très, très, très difficile, compte tenu de ce qu'on est en train de vivre présentement. Mais les choses peuvent bien se passer, on ne sait jamais. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est essayer de garder quand même une certaine énergie. Essayez de vous occuper à faire autre chose. C'est tout à fait possible, parce que la vie ne se résume pas exclusivement à un travail. Il y a beaucoup d'autres aspects dont on peut s'occuper. Et quand on n'a pas de travail, essayez d'ouvrir votre esprit, essayez d'être créative, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire justement, étant donné que vous parlez d'un sentiment d'inutilité par rapport à la société. La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire finalement pour être utile à la société, étant donné que je ne peux pas le faire par les modalités que j'espère, c'est-à-dire avoir un emploi salarié, est-il possible que je fasse autre chose? Et aussi, la confiance ne vient qu'avec les actions. Ça veut dire que vous allez vous sentir en confiance quand vous allez commencer à poser des actions. Mais si vous ne faites aucune action, parce que la confiance est toujours liée à ce que nous faisons, si vous ne faites rien et que vous vous laissez aller, ça va miner votre confiance en vous et ça va se répercuter sur l'estime que vous avez de votre personne. Donc je vous encourage à essayer de garder le cap, à essayer d'ouvrir votre esprit et à comprendre que quand le travail viendra, vous saurez quoi faire exactement et les stages, la qualité des stages que vous faites le prouve très largement.
Et on s'associe bien sûr à tous ces encouragements. On vous dit vraiment bonne chance, Djamila, pour votre recherche d'emploi. Et c'est vrai, comme le professeur Faye le disait, le bénévolat, allez voir si une association a besoin de vous, des jeunes, pour aider les autres, pour ne pas rester dans l'inactivité, puisqu'on a bien compris, vous êtes une jeune fille d'action. Alors, ce manque de confiance en soi qui peut aussi passer par certains détails, c'est l'objet du message Facebook que nous a adressé Becky. Elle vit en République démocratique du Congo. Je vous lis sa question. Professeur, est-ce que le fait d'avoir une petite voix, de ne pas pouvoir parler très fort, ce qui n'est pas mon cas, peut expliquer un manque d'affirmation en soi?
Pas forcément. Quand effectivement c'est une petite voix qu'on a, parce que c'est sa nature, on peut être affirmé tout en étant une petite voix. Parce que généralement, l'affirmation de soi, c'est le courage de dire ce que l'on pense. Une personne peut avoir une forte voix et ne pas oser dire ce qu'elle pense. Alors qu'on peut avoir une petite voix, mais avoir quand même le courage de les exprimer, ce que l'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce que l'on ressent. Par contre, quand on est dans un public et qu'on doit prendre la parole en public et que la voix devient petite, en ce moment, effectivement, ça pose un problème par rapport à la confiance en soi. Et ce qu'on conseille justement, c'est d'essayer d'élever la voix pour susciter la confiance, parce que quand on élève la voix, le cerveau le perçoit comme un sentiment de confiance et du coup, il va réagir de façon adaptée par rapport à cette situation de prise de parole.
Et là aussi, la respiration, c'est très important.
La respiration, elle est toujours importante, puisque parler, c'est en réalité du souffle.
Tout de suite, une nouvelle question.
RFI à Dakar, 92 FM.
Et c'est un autre message enregistré par une auditrice de Priorité Santé, Awa, qui se trouve dans votre ville Dakar. On l'écoute tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Awa, j'ai 24 ans et j'habite à Dakar. Donc avant, j'étais très, très timide. C'est par la suite que j'ai intégré un centre de contact. Donc je voyais tout le temps des gens différents, différentes personnes chaque jour. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidée avec la timidité. Mais par contre, c'est la vie sociale qui me pose un problème parce que j'ai du mal à m'affirmer, comme par exemple pour la famille ou bien les relations amoureuses. J'ai tendance à trop céder. Parfois, il y a des disputes. Donc, c'est moi qui cède. Je dis que bon, d'accord, c'est moi qui ai tort, c'est bon. Juste pour ne pas que les gens s'éloignent de moi. Parce que j'ai perdu mon père quand j'étais très petite. J'avais juste 4 ans. Donc, je pense que depuis, je n'ai pas réussi à combler ce vide-là. Donc, je n'aime pas trop que les gens qui me sont proches s'éloignent de moi. Donc, pour la vie professionnelle, ça va. J'arrive à m'intégrer vite. Mais socialement parlant, les gens qui me sont proches, je n'arrive pas à m'affirmer face à eux. Donc j'aimerais juste que vous m'aidiez sur ce point-là, à mieux m'imposer devant mes proches, à mieux prendre des choses avec logique, avec objectivité.
Alors professeur Paplamine Faye, qui se trouve un plus à l'aise, cette auditrice Awa, dans ses relations professionnelles plutôt qu'avec ses proches? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez souvent? C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude d'entendre des personnes qui disent « moi c'est au travail, j'ai vraiment des problèmes à m'affirmer ». Et là, c'est l'inverse, c'est dans la famille.
Oui, parce que dans le milieu professionnel, habituellement, les choses sont assez claires, assez bien définies. C'est un règlement intérieur, c'est un poste de travail. Vous savez exactement qu'est-ce qu'on attend de vous, qu'est-ce que vous devez faire. Du coup, vous le faites correctement et vous savez qu'au bout du compte, ça va, les gens sont contents et ça ne pose aucun problème. Par contre, dans les relations sociales, dans les relations amicales, les relations privées, les choses sont beaucoup plus difficiles. On ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Et du coup, quand une dispute éclate, comme il le dit, hein, étant donné qu'il y a vraiment un vide affectif lié justement à la perte de son père qu'elle ne parvient pas à combler, dans une dispute, chaque fois que les opinions sont divergentes, Awa a l'impression qu'elle risque de perdre l'amour et l'affection de l'autre. Du coup, elle cède très facilement. Donc Awa est piégée dans une sorte de pensée binaire. Quand l'autre n'est pas d'accord avec moi, je risque de perdre son affection. Et il faut vraiment qu'elle tienne compte de ça. La réalité est parfois tout autre. On peut effectivement défendre un point de vue, être en désaccord avec l'autre, tout en préservant la relation. Ce qu'elle doit surtout faire, Awa, c'est, comme elle le dit, étant donné qu'elle parle d'objectivité, c'est apprendre à être factuel dans les disputes, disons dans les moments où il y a des désaccords, être juste factuel, donner son point de vue très simplement, tout en étant dans le respect de l'autre, dans la bienveillance. Et puis, ce vide affectif, on ne peut pas passer par les gens pour combler un vide affectif. Après, on devient dépendant des gens, on devient dépendant des relations. Et que le meilleur moyen qu'elle puisse avoir justement pour combler ce vide, c'est par elle-même. Il faut juste qu'elle apprenne à devenir son meilleur ami, à prendre soin d'elle, à éviter d'être dans l'autoflagellation, à trop se critiquer. De par ce moyen, elle est en train de se rejeter. Et du coup, elle va dépendre de la validation des autres pour se sentir bien. Et ça, ça ne peut pas faire perdurer des relations. Au contraire, on est assujetti dans la relation, on en devient un peu une sorte de petit esclave où on est en train tout le temps de poursuivre les autres pour leur bonne grâce, pour leur bon jugement. Mais elle doit juste essayer d'être affirmée, garder à l'esprit qu'on peut être ferme avec ses idées et tout en étant doux avec les gens. Ne pas penser de façon binaire que quand je suis en désaccord ou quand je n'exprime pas le même point de vue que l'autre, l'autre ne va pas m'aimer. Donc il faut qu'elle l'écrive, qu'elle le garde bien en tête, qu'elle le lise, parce que ça va lui permettre de prendre de la distance par rapport à ce qui se joue en elle au niveau psychologique et dans lequel elle est piégée.
Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, s'affirmer avec respect. On prend maintenant la direction de la Côte d'Ivoire, Abidjan. En ligne avec nous, c'est Émeraude. Émeraude, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors vous aussi, vous témoignez d'un certain manque de confiance. Comment est-ce que cela se manifeste? Dans quelles circonstances?
Bon voilà, moi mon niveau c'est plutôt dans le côté personnel. Au niveau professionnel, bon ça va, j'arrive à me gérer. Mais au niveau personnel, j'ai beaucoup du mal à affirmer mon point de vue, ce que je veux au niveau de la famille. Voilà, parce que j'ai des frères, j'ai un père qui est assez compliqué. Des fois, quand on discute et que je lui fais part de certaines idées, ils ont tendance à être contre mon idée. Et j'ai beaucoup de mal, en fait, à mettre la pression pour pouvoir leur faire comprendre que voilà, c'est ce que je veux. Ce qu'ils pensent n'a pas vraiment trop de trucs. Je me laisse très souvent aller, en fait.
Ça veut dire que, par exemple, au début d'une conversation, vous avez un point de vue et puis ils vont vous critiquer. Au fur et à mesure, vous allez reculer.
Voilà, je laisse tomber, voilà. Je me dis, bon, s'ils connaissent peut-être, ils sont plus grands, de toute façon, c'est ma famille, donc je laisse tomber. Après, je me dis aussi que même si je force, quand il n'y a pas le soutien des frères ou de la famille, après, on n'a vraiment pas l'objectif d'arriver jusqu'au bout parce qu'il n'y a personne qui nous soutient. Donc, je laisse tomber et puis bon, je passe à autre chose.
Comment est-ce que vous décririez ce lien qui vous unit à vos frères ?
Je suis très proche de mes frères, très proche. Unique fille, donc j'ai très peu de soutien, on va dire, personnel, parce que la plupart du temps, ils sont tous d'accord entre eux.
Est-ce que pour autant, il y a beaucoup d'affection entre vous ?
Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'affection. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu de palabres vraiment intenses entre nous. Mais le seul problème, généralement, c'est au niveau des idées, des opinions. Voilà.
Est-ce que vous avez l'impression qu'ils font un petit peu de l'autorité sur vous ? Est-ce qu'ils essayent tout simplement de vous commander ?
Oui, ils le font. Après, je le vois un peu peut-être comme une sorte de protection. Voilà.
Ce n'est pas du tout de la malveillance. En tout cas, ce n'est pas de l'autoritarisme. Est-ce que vous avez envie de prendre votre indépendance, vous ?
Oui. Oui, j'ai vraiment envie de le faire. Je prépare ça depuis 3 ans. Voilà, quand j'ai eu mon premier diplôme, j'ai forcé pour travailler. Mon père même n'était même pas d'accord pour que je travaille. Il voulait que je sois à la maison, que je me concentre simplement sur mes études. Mais j'ai dit, c'est la seule chose pour laquelle j'ai forcé, parce que je tenais vraiment à prendre mon indépendance au bout d'un certain nombre d'années.
Donc vous lui avez tenu tête, vous êtes senti comment après ?
Bon, un peu mal après, mais au bout d'une semaine, il a laissé tomber, donc j'ai été contente, voilà. C'était compliqué pendant une semaine, mais après, c'est passé.
Et maintenant, la difficulté, c'est de quitter la maison. Vous voudriez prendre un appartement ?
Voilà, c'est de quitter la maison. C'est ce que je souhaite le plus. Des fois, j'en parle avec lui. Il me dit oui. Après, il change d'avis. Mais bon, je sens que ça sera compliqué. Ça sera vraiment difficile. L'étape la plus difficile, on va dire.
Vous négociez ?
Bon, à un moment, je négociais vraiment pas. Je voulais forcer, mais après, je me dis, c'est pas la bonne façon de négocier. Donc, je vois plutôt mes frères, parce qu'il y a un système de famille où mon père dit, quand tes frères sont d'accord, moi, j'ai vraiment pas trop de choses à dire. Donc, je négocie plus avec mes frères. Si eux, ils sont OK avec le papa, ça sera plus simple.
C'est le conseil des frères, on va dire. Alors, Émeraude, c'est quoi la question que vous aviez envie de poser à notre invité, au professeur Pape Lamine Faye ?
Ce que j'ai envie de poser, en fait, j'ai au niveau de la famille et puis au niveau social. J'ai beaucoup de mal à m'imposer, on va dire. Quand on discute et je donne un point de vue, les autres ont tendance à discuter, puis je laisse tomber. Est-ce que c'est vraiment pas un souci de manque de confiance ? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas un moyen de régler ce problème-là ? Des fois, on le dit, il faut avoir confiance en soi, il faut travailler ceci, cela. J'ai vraiment essayé, mais franchement, j'y arrive pas. Ce souci de confiance en soi, je me dis que c'est peut-être la clé qui fait que j'arrive vraiment pas à imposer mes choix devant les autres. Et j'aimerais savoir, en fait, comment est-ce que je pourrais combler ça.
Et pourtant, Émeraude, quand on vous entend, votre voix est bien déterminée, elle est bien décidée, cette voix. Professeur Pape Lamine Faye, qu'est-ce que vous pensez de cette situation que vient de nous décrire cette auditrice qui est en Côte d'Ivoire ?
Alors, quand j'écoute Émeraude, je me disais au début qu'elle n'a pas de gros soucis. Après, mais quand elle pose la question, on voit que le problème se situe au niveau social. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était justement au niveau familial, puisqu'elle disait en début de témoignage qu'elle n'avait pas particulièrement de problème au niveau professionnel. Mais ce qu'on comprend de son problème, c'est que quand elle est en discussion avec quelqu'un et que la personne exprime son désaccord, elle finit par laisser tomber son idée. Exactement comme ça se passe avec ses frères. Sauf que la différence qu'elle doit percevoir, c'est que ses frères sont dans une logique de protection. On la protège, c'est la seule fille de la famille. Et peut-être qu'elles en font trop, elle est gênée par ça. Et que par rapport à d'autres personnes, il faut vraiment s'agripper à son idée quand on a le sentiment qu'effectivement, on a raison d'avoir cette idée. Et qu'il ne faut pas forcément chercher l'approbation des gens. C'est-à-dire, il faut accepter de lâcher le contrôle et de faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Il ne faut pas tout le temps vouloir convaincre les autres. Quand on sent qu'on veut faire des choses, on n'a qu'à les faire et les assumer jusqu'au bout. Maintenant, en famille, c'est un peu plus difficile parce qu'on est avec la famille. On est sous la responsabilité, il faut de la patience comme vous êtes en train peut-être de le faire, pour, à un moment donné, apprendre votre indépendance. Mais comme vous êtes sous le toit familial, sous la responsabilité de vos grands frères et de votre père, et c'est effectivement beaucoup plus difficile. Acceptez juste que on n'a pas le contrôle sur les opinions des autres, on n'a pas de contrôle sur les pensées que les gens se font par rapport à certaines situations, et que par moment, il faut juste accepter d'assumer ses propres idées, ses propres choix, ses propres décisions, sans vouloir convaincre quelque chose. Parce que vous disiez tout à l'heure, imposer mes choix. Il ne s'agit pas d'imposer vos choix, il s'agit juste d'assumer vos choix.
Émeraude, comment est-ce que vous voyez les choses ? Est-ce que vous imaginez, par exemple, le soir dans votre lit, des discussions où vous feriez part aux personnes de votre famille des bonnes manières pour les convaincre ? On a bien compris, convaincre et non imposer.
Je vais essayer, parce que je passe plus mon temps à essayer de convaincre plutôt que d'aller jusqu'au bout et puis d'assumer, en fait. Et c'est assez difficile. J'ai toujours besoin de l'avis de mes frères, de ce qu'ils pensent, de ce que je vais faire, pour être sûr de ne pas aller dans du n'importe quoi, on va dire ça comme ça.
Eh ben, on vous souhaite bon courage, Émeraude. S'affirmer, trouver les solutions lorsque l'on sent qu'on perd ses moyens, c'est ce que recherche une autre auditrice, hein, Joyce de RDC. Elle nous raconte sur Facebook que souvent, au moment de s'exprimer, de faire part de ses idées dans un groupe, son cœur s'emballe, elle est complètement stressée finalement, elle renonce à prendre la parole. Et elle vous demande, professeur, est-ce que je pourrais avoir des conseils pour avoir moins le trac ?
Le trac, on l'a toujours au début. Mais le trac ne doit pas être une raison pour fuir la prise de parole. Parce que c'est justement en fuyant la prise de parole que le trac va se manifester. Je vous dis qu'à un moment donné, quand on fuit cette prise de parole, on se soulage du trac, on n'a pas de trac. Sauf que pour arriver à avoir cette compétence, il faut accepter d'avoir le trac. Et pour ne pas justement avoir trop de trac, il faut prendre l'habitude de bien se préparer avant de faire cette prise de parole. Quand c'est une présentation qu'il faut faire en PowerPoint, quand c'est un discours qu'il faut prononcer, il faut vous préparer. Et la préparation, c'est pas juste écrire ce que l'on va dire, mais c'est dire ce que l'on a écrit. C'est-à-dire être dans une représentation imaginaire où on imagine que les gens sont là en train de vous écouter et vous faites comme si vous aviez le public en face de vous. Et comme ça, votre cerveau, puisqu'il ne fait aucune différence entre une situation imaginaire et une situation réelle, habituellement, quand vous vous êtes préparé en amont, venir devant le public, votre cerveau aura l'impression que c'est du déjà vu, du déjà fait, du déjà entendu, et elle va se stabiliser et ressentir la situation, pas comme une menace, mais comme quelque chose que vous avez l'habitude de faire, puisque notre cerveau est très sensible aux habitudes.
On va tout de suite donner la parole à une dernière auditrice.
RFI à Goma, 98 FM.
La RDC Goma avec une auditrice qui nous a laissé un message, un long message pour nous expliquer sa situation. C'est Kadidia, elle a 30 ans, elle dit qu'elle est timide depuis toute petite. En fait, je vais me faire sa porte-parole à Kadidia. L'année dernière, elle était professeure dans une classe d'adultes. Elle avait du mal à s'exprimer en public, mais après avoir, eh bien oui, écouté Priorité Santé, une émission l'an passé avec le professeur Prosper Gandao, elle a écouté quelques-unes de ses techniques, certains de ses conseils. Par exemple, fixer une personne en particulier dans la salle, concentrer toute son attention sur cette personne pour dépasser sa timidité. Mais voilà, Kadidia a changé d'emploi. Maintenant, elle va se retrouver davantage en face à face avec des personnes. Elle lit des personnes importantes pour son travail, un cadre différent, des réunions, des conférences. Elle dit des personnes importantes d'autres nationalités. Et là, on va dire que l'histoire se répète. À nouveau, la timidité, elle a peur de ne pas être convaincante et elle a particulièrement des craintes lorsqu'il y a des disputes, lorsque les discussions sont houleuses, chacun défend son point de vue. Et bien là, c'est de plus en plus compliqué. Elle dit, elle est impressionnée. Et Kadidia vous demande, professeur Lamine Faye, je suis encore sa porte-parole, est-ce qu'elle peut avoir des conseils pour réussir à aborder ce nouveau travail, cette nouvelle mission sereinement ?
Oui, le premier conseil était bon, fixer quelqu'un dans la salle, sauf qu'après elle est dans un contexte professionnel où elle doit être en interaction avec tout le monde. Il est vrai que son premier travail, c'était effectivement une relation d'autorité où c'était le professeur devant des adultes, où elle est là, elle délivre quelque chose et on attend quelque chose de lui. Ça, c'est une relation où c'est elle qui a presque le monopole. Alors que là, on est dans un contexte où c'est une relation d'adulte à adulte, c'est-à-dire c'est un échange d'informations, on discute, on est au même niveau, donc ça devient un peu différent. Le premier conseil que je lui donne, c'est de ne pas a priori essayer de convaincre, mais surtout d'exprimer ses idées, parce qu'elle dit qu'elle a peur de ne pas convaincre. D'abord, il faut exprimer les idées avant de pouvoir convaincre. Ce qu'elle doit faire, étant donné que à la base, c'est une personne qui a été timide, c'est d'oser dire déjà sa position, exprimer ses idées, donner son opinion, ça c'est extrêmement important. Et puis la deuxième chose, c'est toujours faire la distinction entre ses idées et les personnes. C'est-à-dire regarder les gens, oser dire les idées, tout en étant gentil avec les gens. Et c'est cette distinction que les gens ne font pas très souvent. C'est-à-dire, je suis là, je suis en face de quelqu'un, j'ai mes idées et mes opinions, et j'ai la personne en face de moi. Et donc, j'exprime mes idées de façon assez ferme, si je crois que j'ai raison, tout en étant doux avec la personne. Comme on dit, être une main de fer dans un gant de velours. Tout en sachant que le fer, c'est les idées, Le gant de velours, c'est la relation qu'on a avec les gens. Parce que finalement, c'est ça le principe de l'affirmation de soi. Apprendre à obtenir ce que l'on veut dans la relation tout en préservant cette relation. Mais par peur parfois de perdre la relation, souvent on lâche sur ses positions, on lâche sur ce qu'on a envie de transmettre ou en tout cas de donner aux autres.
En tout cas, ce qu'on comprend bien avec Khadidia, c'est que tout ça se construit étape par étape. C'est pas parce qu'elle a pris de la confiance en elle dans une situation qu'elle va être en confiance dans une autre situation.
Absolument. Ça, en fait, aujourd'hui, c'est une évolution professionnelle. C'est-à-dire, elle sort d'une zone de confort. Elle a réussi à vaincre sa timidité à un moment donné par rapport à un contexte précis. Aujourd'hui, la situation a changé. C'est pas parce qu'elle recule, mais il faut qu'elle se donne davantage de valeur ajoutée. Ça devient un nouveau défi. Et c'est toujours intéressant. Et c'est des choses qu'elle pourra surmonter et en vouloir davantage.
Et toute l'équipe dit à Khadidia, hein, très bonne continuation, bon courage dans ce nouvel emploi. C'est Khadidia aussi qui a choisi le titre avec lequel on va vous dire au revoir, professeur Paplamine Faye. Merci beaucoup hein, pour tous ces conseils aux auditrices de l'émission. Merci infiniment.
Merci beaucoup Caroline.
Et à très bientôt. Et à bientôt. Et à distance, on dit à Goma, à Khadidia, merci de nous faire partager ce titre d'Ami Koïta Diarabi dans Priorité Santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Louise Kaledek. Merci à elle pour tout son travail. Ici, Steven Elsley et Jean-Philippe Thurie. À Dakar, cher Abeille Diop et Saliou Diao. Et lundi, dans Priorité Santé, nous parlerons des migraines, la plus fréquente des maladies neurologiques, diagnostics et facteurs déclenchants. Quelle prise en charge existe? On se dit à lundi et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
C'est pas du vent.